Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique.
Petit déjeuner politique un peu spécial ce matin. Nous sommes en compagnie de Manon Laporte, conseillère régionale d'Île-de-France, auteur du livre. On la reçoit surtout pour le livre, mais on va parler de l'actu. Le livre Engagé sur un clic. Je le montre pour le Facebook Live et le Périscope. C'est publié aux éditions AKFG. Manon Laporte, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Votre livre commence en racontant votre parcours depuis l'enfance entre quartier cossu et quartier populaire. Est-ce qu'il y a vraiment deux France aujourd'hui ?
Ah oui, absolument, il y a deux France. Vous avez les quartiers bobos où vous vivez correctement, où les quartiers propres, où les gens sont polis, où les gens ne vendent pas de drogue. Et puis vous avez des quartiers où effectivement les jeunes, les moins jeunes rencontrent des vraies difficultés. Et ils sont soumis à des actes de délinquance. Oui, il y a deux. Enfin, je veux dire, moi, j'ai été élue pendant 4 ans à Montreuil, j'ai quand même vu la différence.
Oui, mais alors justement, est-ce que cette fracture, il y a une statistique, c'est le fameux indice de Gini entre les écarts de richesse qui est tombé il y a 15 jours, 10 jours, est-ce que cette fracture entre les plus riches et les plus pauvres ne s'aggrave pas de jour en jour ?
Je ne sais pas si elle s'aggrave de jour en jour.
D'après les stats économiques, oui.
Peut-être de jour en jour, d'année en année, probablement. Les gens riches deviennent plus riches. En fait, le problème, c'est la disparition des classes moyennes.
Alors justement, oui, et l'appauvrissement de ces classes moyennes.
Et l'appauvrissement qui, effectivement, parce que vous savez bien
qu'il y a de plus en plus de classes moyennes inférieures et de moins en moins de classes moyennes supérieures.
Parce qu'il n'existe pas, à proprement parler, de définition par l'INSEE de la classe moyenne. Donc il y a deux classes moyennes et on s'aperçoit que les classes moyennes inférieures s'appauvrissent de plus en plus.
Alors justement, en lisant votre livre, on sent dedans une jeunesse difficile avec un père qui décède peu avant votre naissance, une mère de 21 ans et une éducation par vos grands-parents. Vous êtes issu d'une famille juive polonaise, mais vous écrivez, je cite, « La seule religion qu'avait ma famille était le sens de l'effort. Oui, » Comment ressentez-vous le retour du fait religieux de manière aussi prégnante dans la société ?
Pour moi, c'est vrai que c'est très curieux parce que, si vous voulez, on était issus d'une famille ashkénaze hébergée en Union soviétique entre les deux guerres. Je suis née, bon, moi, en France. Ma mère est venue à 6 ans en France. Elle parlait pas un mot de français. Elle était chef de service immunologiste à l'Institut Pasteur. Il n'y avait que le travail qui comptait. Et c'est vrai que la religion, ce sont des gens qui ont vécu la Shoah. Donc, à un moment donné, on n'est pas religieux. Et le nombre de juifs ashkénazes qui se sont convertis au catholicisme après la Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un désintérêt total pour le fait religieux. Et là, c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, on s'aperçoit que finalement, les gens croient moins en la République, moins en valeur de la République, mais plus au fait religieux. C'est ça qui fait peur, puisque le religieux prend le dessus, si vous voulez, de la citoyenneté.
Alors justement, on va en reparler un peu plus tard, mais c'est assez amusant. Vous avez commencé au Parti communiste, oui. Vous alliez à la Fête de l'Humanité. Mmh. On vous disait, toi, tu devrais être assistante sociale, et vous avez terminé avocate d'affaires et élue à droite.
Oui, vous savez, les avocats, ils écoutent beaucoup. Le nombre de fois où on m'appelle pour me parler de sa vie, vous savez, c'est incommensurable. Hein. Donc l'assistance sociale, oui, parce que j'adorais écouter les gens, j'adorais les aider, mais ça n'a pas changé. Mais la politique, c'est ça. La politique, c'est aider l'autre. C'est les écouter, c'est être proche de leurs difficultés. C'est les aider, c'est comme être avocat. Sauf que vous n'avez pas un dossier en particulier, vous avez un ensemble de dossiers. Mais c'est le même métier.
Vous avez 100 000 dossiers quoi, dans une circonscription.
105 000.
Oui, je schématisais. Un chapitre s'intitule « L'impôt symptôme de mon engagement professionnel à mon engagement citoyen ». C'est l'impôt qui vous a incité à faire de la politique ?
Absolument.
Et pourquoi ? C'est surprenant.
L'impôt, c'est le ciment de la citoyenneté. Bon.
Ça pose problème quand dans un pays seulement 42% des gens payent l'impôt sur le revenu. Le ciment va être un peu liquide là, il va pas trop prendre.
Absolument, c'est même plus un ciment. Bon. Mais c'est quand même le ciment de la citoyenneté. Et alors on s'aperçoit que les gens ne veulent plus de moins en moins payer l'impôt.
Mais ils veulent plus de services publics.
Ils veulent plus de services publics. Toujours, et je me suis dit, et j'avais rencontré Vincent Drozet, qui était un inspecteur des impôts, j'ai dit, mais attendez, c'est pas possible, pourquoi tout le monde part ? Pourquoi personne ne veut payer l'impôt ? Et on s'était dit, mais on n'a qu'à aller voir les écoles et leur dire, faut expliquer, au moins faire de l'éducation citoyenne de l'impôt dans les classes de 6-7 ans, et on voulait que Bercy ouvre ses portes. Et on avait fait un certain nombre de...
De démarches.
Et d'actions directes avec le ministère de l'économie.
Alors justement, vous avez fait campagne à Montreuil,
oui.
Un sacerdoce.
Ah oui, c'est fini Montreuil d'ailleurs.
Oui.
J'ai été épuisée. Vous savez, ma permanence cassée trois fois. J'ai commencé avec 22%, 18%, puis 22 et 23%. Quand j'étais porte-parole de Valérie Pécresse en 2015, je me suis effondrée à 6% contre Corbière aux législatives. Si vous voulez, c'est plus pour moi. Et puis je sens qu'il y a une dérive, si vous voulez. Ce que je voulais leur apporter à Montreuil, c'était les sortir de leur cité, du chômage, de la drogue. Ça ne correspondait pas finalement à leurs attentes. Il y avait trop de décalage entre moi et leurs attentes.
Trop de décalage, oui, c'est terrible. Les jeunes, justement, parlons-en. Il y a un chapitre qui s'appelle « Les jeunes du désengagement citoyen apparent au sursaut national concret. Les jeunes ne votent plus. Est-ce la faute des politiques ?»
Oui, probablement. C'est la faute des politiques. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut déresponsabiliser les jeunes. Mais si vous voulez, qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes ? Les jeunes, ils veulent qu'on s'occupe d'eux, qu'on les écoute. On leur parle, pas de vagues promesses et qu'après, on ne les voit plus. D'abord, je pense qu'il faut les écouter, première chose, et les intégrer dans la vie citoyenne. Non seulement faire des conseils municipaux...
Des jeunes,
parce qu'il n'y en a pas assez. J'en connais un dans le 94. Un conseil régional des jeunes qui existe en Île-de-France, il faut le faire au conseil départemental, il faut le faire au Parlement. L'année, les enfants viennent une fois au Parlement... Ça ne suffit pas. Il faut les intégrer dans la vie législative même. Je pense qu'il faut faire une vraie révolution.
Mais vous dites pourtant qu'ils ont une formidable capacité d'engagement.
Oui, ils s'engagent dans l'immédiateté. C'est le clic. Ils s'engagent tout de suite dans l'immédiateté, dans l'action concrète.
C'est le titre du livre, Engagé sur un clic.
Absolument, mais pourquoi un clic ? Parce que c'est l'immédiateté, c'est l'action tout de suite, pour, en général des grandes causes nationales ou pour le sida, mais ils n'ont pas de vision à long terme de l'engagement. Et ils sont complètement déconnectés de la vie citoyenne à long terme.
Manon Laporte, vous parlez des deux fausses solutions au flou identitaire et citoyen, le repli communautariste religieux et les extrêmes politiques. Cette semaine, dans Valeurs Actuelles, Emmanuel Macron a dit, je cite, « On a été pendant 15 jours l'otage des deux périls qu'il faut éviter, le communautarisme et le Rassemblement national. » Manon Laporte, est-ce que Macron fait du Manon Laporte ?
J'aimerais bien. J'espère qu'il avait lu le livre.
Il va vous payer des droits d'auteur, alors, dans ces cas-là.
Il faut d'abord que j'envoie le livre, mais il a tout à fait raison, tout à fait raison. Il y a une espèce de repli identitaire, au lieu de s'ouvrir vers la citoyenneté, et ça c'est la faute des politiques, il se replie sur le religieux.
Par clientélisme électoral aussi.
Moi je l'ai connu, alors à Montreuil, pas qu'à Montreuil, mais moi je vous parle de ce dont je connais. À Montreuil c'était hallucinant, le clientélisme.
Qui dépasse toutes les limites.
Qui dépasse toutes les limites, fait par les insoumis. Aussi par les communistes, mais alors les insoumis, c'était le summum du summum.
Par exemple ?
Alors je ne vais pas être désagréable, mais si vous voulez, quand Corbière se promenait dans les cités où moi j'allais, il leur disait, de toute façon, on va vous payer 800 euros, on va vous sortir de là comme ça. On ne traite pas les jeunes par la paresse, par l'absence de mérite, et en les laissant comme ça se faire les viseurs, les guetteurs.
Les choufs, on dit également.
Les choufs, à 150 euros, c'est inadmissible.
Alors justement, vous demandez une charte précise de la laïcité, oui. Qui pour vous est une urgente nécessité. La laïcité est-elle en danger, comme le pensent 80% des Français dans le sondage IFOP-JDD de dimanche dernier ?
Mais je pense qu'elle est totalement en danger. Alors la charte de la laïcité, vous savez qu'elle existe dans toutes les écoles. Elle existe dans les communes,
dans
les
mairies. Vous savez, en France, c'est pas vous qui êtes avocate que je vais l'apprendre. On a beaucoup de lois, mais combien ne sont pas appliquées ?
Oui, c'est vrai que c'est pas... La charte de la laïcité, elle existe. On l'a fait appliquer en Île-de-France. On l'a fait en appliquer. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il faut absolument la faire appliquer. Mais d'un autre côté, on ne peut pas être derrière chaque citoyen. Et c'est pour ça que je pense que l'éducation citoyenne se fait dès 6 ans.
Dès le plus petit âge, dès le cours préparatoire.
Les valeurs républicaines doivent absolument être enseignées, et même un livret citoyen...
Je ne dirais pas votre âge, on a un an d'écart.
Ans.
Non, mais bon, bah, d'accord. À l'époque, on avait des cours de morale, ce serait bien de les remettre.
Oui, de morale, d'éthique, mais vous avez encore l'EMC, vous avez des cours morale civique qui avaient été institués par Vincent Peillon. Mais ça, ce sont les professeurs d'histoire, de géographie...
Qui doivent le faire, mais c'est pas en CP.
Pas dans quel
Alors que
cadre.
Nous, c'était dès l'école très
dès
jeune
CP,
qu'on avait des cours de morale.
Valeurs républicaines, l'uniforme, il faut revenir
à l'uniforme,
à mon avis, au chant de la Marseillaise, extrêmement important.
Au drapeau dans les classes, comme aux États-Unis?
Oui, absolument, absolument. Vous avez vu quand il se passe quelque chose aux États-Unis,
ah oui.
Les drapeaux sont là, les gens sont dit, ils parlent de leur pays. Et en France, est-ce que vraiment ils ont un sentiment d'appartenance à une communauté française, à une communauté nationale?
Justement, vous parlez dans votre livre du burkini. Que vous inspire-t-il? Et le voile dans les sorties scolaires, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, c'est ce que j'ai dit sur CNews. Les accompagnants, ce sont la prolongement de la vie de
scolaire.
L'école, ce que de la vie scolaire. On ne peut pas considérer que c'est à titre privé qu'elles peuvent mettre leur voile.
Parce que c'est ce que je disais hier à Sophie Cluzel, elle dit « moi, ça ne me pose pas de problème ». Je dis « mais s'il y en a un qui vient avec sa kippa, l'autre avec son voile, le troisième avec sa grande croix », je dis « où est le tissu national ?»
Non, absolument. C'est le principe de la laïcité qui est au-dessus des lois et vous devez respecter ce principe de laïcité.
Et excusez-moi, celles qui en 68 se battaient pour se mettre topless à la plage, maintenant c'est remplacé par le burkini. Est-ce pas un grand retour en arrière?
Absolument. Moi, vous savez, j'ai beaucoup d'amies algériennes, mais elles sont outrées. Parce que leurs mères se sont battues pour éviter le voile, pour éviter leurs conditions féminines. Et elles voient maintenant que les jeunes femmes, dans tous les quartiers populaires, se remettent le voile, le burkini, etc. Elles se disent mais on est tombé sur la tête.
Dernière question, vous en parlez dans votre livre, la citoyenneté apaisée, Manon Laporte, c'est quoi?
La citoyenneté apaisée, c'est l'éducation nationale. Alors, il ne faut pas, évidemment, lutter les uns contre les autres, faire de l'amalgame, parce que finalement, il y a beaucoup de musulmans, parce qu'on parle toujours d'origine des musulmans, qui sont complètement intégrés. C'est une partie infime qui ne sont pas intégrés. Mais je pense que par l'éducation, ça lisse les gens, ça les intègre. C'est l'intégration par un certain nombre de mesures que j'ai préconisées dans le livre, notamment le livret citoyen, dès l'école, qui permet de faire des actions sociales, de mécénat, et qui permet d'avoir aussi des points peut-être aux examens, qui permettent d'intégrer les jeunes dans la société civile française.
Merci beaucoup Manon Laporte, conseillère régionale d'Île-de-France et auteure du livre « Engagé sur un clic ». C'est publié aux éditions AKFG. Dans quelques instants, on aura l'édito d'Elisabeth Lévy qui nous parlera de Bachar al-Assad et de la Syrie. Et ensuite, on rira un bon coup avec notre imitateur, Danny Moreau. Et dans quelques instants, évidemment, aux alentours de 8h, on fera une petite pause actu. Restez bien avec nous sur Sud Radio.